L'infâme nuit passa lentement et à contre-cœur. Le matin qui lui succéda ne donna que peu de lumière, car à l'approche de la montagne, l'air avait toujours cette teinte fuligineuse, tandis que de la tour sombre se répandaient les voiles d'ombre que Sauron tissait autour de lui. Frodo, couché sur le dos, ne bougeait pas. Sam se tenait auprès de lui, n'osant pas parler, mais sachant que la parole lui incombait. Il devait atteler la volonté de son maître à un nouvel effort. Enfin, se penchant pour lui caresser le front, il murmura à l'oreille de Frodo « Debout, maître, » dit-il, « c'est l'heure de reprendre la marche. » Comme au son d'une soudaine cloche, Frodo se redressa d'un trait, puis il se leva et regarda au sud. Mais au moment où ses yeux contemplèrent la montagne et le désert environnant, son courage vacilla de nouveau. « Je n'y arriverai pas, Sam, » dit-il. « C'est un tel poids à porter, un si grand poids. » Sam sut, avant même d'ouvrir la bouche, que ses paroles étaient vaines, qu'elles causeraient sans doute plus de mal que de bien. Mais la pitié fit en sorte qu'il ne put garder le silence.
« Alors laissez-moi le porter un peu pour vous, maître, » dit-il. « Je vais le faire avec plaisir, vous le savez, tant qu'il me restera des forces. »
Une lueur farouche parut dans les yeux de Frodo.
« Écarte-toi, ne me touche pas !» s'écria-t-il. « Il est à moi, je te dis. Va-t'en !»
Sa main s'égara sur la poignée de son épée. Mais alors sa voix changea rapidement.
« Non, non, Sam, » dit-il tristement. « Mais il faut que tu comprennes. C'est mon fardeau, et personne d'autre ne peut le porter. Il est trop tard maintenant, cher Sam. Tu ne peux pas m'aider de cette manière une seconde fois. Je suis presque en son pouvoir à présent. Je ne pourrais pas m'en séparer, et si tu essayais de me le prendre, j'en deviendrais fou. »
Sam hocha la tête.
« Je comprends, » dit-il. « Mais je me disais, monsieur Frodo, qu'il y a encore des choses dont tout pourrait se passer. Et si on allégeait un peu la charge ? On va de ce côté maintenant, aussi net que possible. »
Il leva le doigt vers la montagne.
« C'est pas la peine d'emporter des choses qui risquent de jamais nous servir. »
Frodo se tourna de nouveau vers la montagne.
« Non, » dit-il, « il ne nous faudra pas grand-chose sur cette route. Et à la fin, rien. »
Il ramassa son bouclier d'orque, le jeta au loin et lança son casque à la suite. Il retira alors la cape grise, défit la lourde ceinture et la laissa choir sur le sol avec l'épée dans sa gaine. Il déchira la cape noire en lambeaux et les éparpilla.
« Voilà, je ne serai plus un orque, » s'écria-t-il. « Et je ne porterai plus d'armes, nobles ou viles. Qu'ils me prennent s'ils le veulent. »
Sam fit de même, délaissant son attirail d'orque, et il vida tout le contenu de son paquet. Peu à peu, il s'était attaché à chacun de ces objets, ne fût-ce que parce qu'il les avait portés aussi loin et au prix de tant d'efforts. Le plus dur fut de se séparer de ses ustensiles de cuisine. Ses yeux se remplirent de larmes à l'idée de devoir les jeter.
« Vous rappelez-vous ce petit bout de lapin, monsieur Frodo ? »
demanda-t-il.
« Et notre campement sous le talus ensoleillé au pays du capitaine Faramir, le jour où j'ai vu un olifant ?»« Non, je crains que non, Sam. »
répondit Frodo.
Du moins, je sais que ces choses sont arrivées, mais je ne puis les voir. Aucun goût de nourriture, ni sensation d'eau, ni rumeur de vent, aucun souvenir d'arbres, d'herbes ou de fleurs, ni reflet de lune ou d'étoiles ne me reste. Je suis nu dans les ténèbres, Sam, et il n'y a aucun voile pour me séparer de la roue de feu. Je commence à la voir même de mes yeux éveillés, et tout le reste s'estompe.
Sam s'approcha et lui baisa la main.
« Alors, plus vite on s'en sera débarrassé, plus vite on se reposera. »
hasarda-t-il d'une voix hésitante, ne trouvant rien de mieux à dire.
« Ça n'arrange rien de parler, »
murmura-t-il pour lui-même, tandis qu'il rassemblait toutes les choses qu'ils avaient choisi de jeter. Il n'entendait pas les laisser au milieu du désert à la vue des regards.
« Schlinger a ramassé les mailles d'orque à ce qu'il paraît. On va pas lui fournir une épée en plus. Ses mains nues sont déjà assez dangereuses. Je le laisserai pas toucher à mes casseroles. »
Là-dessus, il porta tous les objets à l'une des nombreuses fissures qui s'ouvraient dans la terre, et il les y jeta. Le bruit de ses précieuses casseroles disparaissant dans les ténèbres résonna dans son cœur comme le glas d'un mort. Il retourna auprès de Frodo, puis il coupa un bout de sa corde elfique pour servir de ceinture à son maître et serrer ainsi la cape grise autour de sa taille. Il enroula soigneusement le reste de la corde et la remit dans son paquet. Outre cela, il conserva seulement leur dernière gaufrette de pain de route, la gourde, ainsi que Dard, qui pendait toujours à sa ceinture. Et, dissimulée contre son sein dans une poche de sa tunique, la fiole de Galadriel et la petite boîte qu'elle lui avait personnellement offerte. Enfin, ils se tournèrent face à la montagne et repartirent, sans plus songer à se cacher, mais concentrant leur lassitude et leur volonté défaillante sur la seule idée de persévérer. Dans la morne pénombre du demi-jour, rares sont ceux qui, même en cette terre de vigilance, eussent pu les apercevoir, sauf de très près. De tous les esclaves du Seigneur Sombre, seuls les Nazgûl auraient pu l'avertir du péril qui s'immisçait, minuscule mais irréductible, au cœur même de son royaume, pourtant bien gardé. Le rombre rassemblé loin de là planait sur la marche des capitaines de l'Ouest, et la pensée de la tour sombre était dirigée de ce côté. Ce jour-là, il parut à Sam que son maître avait trouvé une nouvelle force, laquelle ne pouvait entièrement s'expliquer par le faible allègement de sa charge. Les premières étapes de leur marche les menèrent plus loin qu'ils ne l'avaient espéré et plus vite que prévu. Le pays était âpre et hostile, mais ils firent de grands progrès malgré tout et la montagne approchait sans cesse. Néanmoins, comme la journée avançait, la faible lumière ne baissant que trop vite, Frodo se courba de nouveau et se mit à chanceler, comme si l'effort renouvelé avait dilapidé le peu de force qui lui restait. À leur dernière halte, il s'affaissa sur le sol et dit « J'ai soif, Sam ». Après quoi, il ne parla plus. Sam lui donna une gorgée d'eau. Il n'en restait plus qu'une seule. Lui-même s'en priva. Et tandis que la nuit du Mordor retombait autour d'eux, toutes ses pensées étaient traversées par le souvenir de l'eau. Et chacun des ruisseaux ou rivières ou fontaines qu'il avait jamais vus, sous le vert ombrage des saules ou dans le chatoiement du soleil, dansait et ruisselait pour son plus grand tourment, derrière les fenêtres aveugles de ses yeux. Il sentait la boue fraîche entre ses orteils alors qu'il barbotait dans l'étang de Bello avec Jolly Casbonne, Tom et Nibs et leur sœur Rosie. « Mais c'était il y a des années, » soupira-t-il, « bien loin d'ici. Le chemin de retour, s'il y en a un, passe par la montagne. » Il ne trouvait pas le sommeil et débattait intérieurement. « Allons bon, ça s'est mieux passé que ce que t'avais prévu, » dit-il d'un ton déterminé. « Ça a bien commencé, en tout cas. Je pense qu'on a dû faire la moitié de la distance avant de s'arrêter. Encore un jour et ce sera fait. » Il marqua une pause. « Sois pas idiot, Sam Gamgee, » fit sa voix en réponse. « Il tiendra pas une autre journée comme ça, s'il est même capable de bouger, et tu tiendras pas beaucoup plus longtemps si tu continues à lui donner toute l'eau et presque toute la nourriture. Je peux tenir encore un bon bout, en tout cas, et j'y compte bien. Jusqu'où ? Jusqu'à la montagne, naturellement. Et puis quoi, Sam Gamgee ? Quoi ? Quand tu y seras, qu'est-ce que tu vas faire ? Il arrivera à rien par lui-même. » À son grand désarroi, Sam constata qu'il n'avait aucune réponse à cette question. Il n'avait même pas un commencement d'idée. Frodo ne lui avait pas beaucoup parlé de sa mission, et Sam savait seulement que l'anneau devait être envoyé au feu d'une quelconque façon. « Les failles du destin, » murmura-t-il. Ce vieux nom lui revenait à l'esprit. « Eh bien, si maître sait comment les trouver, je ne peux pas en dire autant. » « Bon, tu vois, » vint la réponse, « tout ça est plus qu'inutile. Il l'a dit lui-même, c'est toi l'idiot qui continue à espérer et à peiner. Vous auriez pu vous étendre côte à côte et fermer les yeux ensemble il y a de ça des jours, si t'étais pas si obstiné. Mais tu mourras tout de même, ou pire. Aussi bien t'allonger tout de suite et tout laisser tomber. De toute façon, t'arriveras jamais en haut. J'y arriverai, même si je dois tout laisser excepté mes os, » dit Sam. Et je vais moi-même porter Monsieur Frodo jusque-là, quitte à me briser le dos et le cœur. Alors cesse de discuter. » À ce moment, Sam sentit la terre trembler sous lui, et il entendit ou perçut un lointain et profond grondement, comme un tonnerre emprisonné sous terre. Une flamme rouge clignota rapidement sous les nuages et mourut aussitôt. La montagne aussi dormait d'un sommeil agité. La dernière étape de leur voyage jusqu'à l'Orodruine arriva, et ce fut un tourment plus grand que tout ce que Sam avait jamais cru pouvoir endurer. Il souffrait, et il était si assoiffé qu'il ne parvenait même plus à avaler la moindre bouchée. Le ciel demeura sombre, mais les fumées de la montagne n'étaient pas les seules responsables. Un orage semblait imminent, et loin au sud-est, sous les cieux noirs, se voyait un chatoiement d'éclairs. Pire que tout, l'air était rempli de vapeurs délétères. La respiration était pénible et douloureuse, et ils étaient pris d'étourdissement, de sorte qu'ils vacillaient sur leurs jambes et tombaient souvent. Mais leur volonté ne fléchissait pas, et ils continuaient malgré tout. La montagne ne cessait d'approcher, à tel point que s'ils levaient leur tête lourde, sa vaste forme emplissait toute leur vue. Un gigantesque amas de cendres, de scories et de pierres calcinées, au milieu duquel s'élevait un cône au flanc abrupt, perçant les nuages. Avant que cette journée crépusculaire ne fût terminée et la nuit véritable revenue, ils avaient rampé et trébuché jusqu'à son pied même. Avec un râle, Frodo se jeta sur le sol. Sam s'assit auprès de lui. À sa surprise, il se sentait fatigué mais plus léger, et ses idées semblaient s'être de nouveau éclaircies. Aucun débat intérieur ne le troublait plus. Tous les arguments du désespoir lui étaient connus, et il refusait d'y prêter l'oreille. Sa volonté était arrêtée, et seule la mort pourrait la briser. Il ne se sentait plus aucun désir ni besoin de dormir, mais plutôt un besoin de vigilance. Il savait que tous les risques et les périls confluaient désormais vers un même point. Le jour suivant serait un jour fatidique, celui de l'ultime effort ou du désastre final, le dernier sursaut. Mais quand viendrait-il? La nuit paraissait sans fin et en dehors du temps. Les minutes tombaient mortes, l'une après l'autre, sans jamais s'additionner en heures, sans apporter aucun changement. Sam commença à se demander si une seconde obscurité avait débuté et si aucun jour viendrait jamais. Enfin, cherchant à tâtons, il trouva la main de Frodo. Elle était froide et tremblante. Son maître frissonnait.
« J'aurais pas dû me débarrasser de ma couverture, » marmonna Sam.
Et, s'allongeant auprès de Frodo, il voulut le réconforter avec ses bras et son corps. Puis, le sommeil le prit, et la lueur crépusculaire du dernier jour de leur quête les trouva côte à côte. Le vent était tombé la veille en se détournant de l'ouest. Il soufflait à présent du nord et se mit à fraîchir. Et lentement, la lumière d'un soleil invisible filtra jusque dans les ombres où étaient étendus les hobbits.
« en avant pour le dernier sursaut !» dit Sam en se remettant péniblement sur pied.
Il se pencha sur Frodo et le réveilla doucement. Frodo gémit, mais par un terrible effort de volonté, il se releva chancelant. Puis, il retomba à genoux. Il leva les yeux avec difficulté vers les pentes sombres du mont Destin qui se dressaient au-dessus de lui, puis il se mit à ramper pitoyablement à quatre pattes. Sam l'observa et pleura intérieurement, mais aucune larme ne monta à ses yeux secs et irrités.
« J'ai dit que je le porterais, quitte à me briser le dos, » murmura-t-il, « et je le ferai. »« Allons, monsieur Frodo, »
s'écria-t-il.
« Je peux pas le porter à votre place, mais je peux vous porter, vous et lui, en même temps. Alors relevez-vous. Allons, cher monsieur Frodo, Sam va vous emmener en promenade. Dites-lui juste où aller et il ira. »
Tandis que Frodo s'accrochait à son dos, les bras passés autour de son cou, les jambes tenues fermement sous ses aisselles, Sam se releva avec effort. Et à son grand étonnement, le fardeau lui parut léger. Il avait craint d'avoir à peine la force de soulever son maître seul et de devoir supporter au surplus le poids horrible et accablant de l'anneau maudit, mais il n'en fut rien. Soit que Frodo fût à tel point amenuisé par ses longues souffrances, la blessure du poignard, le dard empoisonné, le chagrin et la peur, le voyage sans asile, soit qu'un dernier sursaut d'énergie eût été imparti à Sam, toujours est-il qu'il souleva Frodo sans plus de difficulté que s'il emmenait un enfant hobbit faire un tour sur son dos à travers les prés ou les pelouses du comté. Il prit une grande respiration et se mit en route. Ils avaient atteint le pied de la montagne sur son côté nord et un peu à l'ouest. À cet endroit, ses longues pentes grises, bien qu'accidentées, n'étaient pas raides. Frodo ne parlait pas. Aussi Sam chemina-t-il de son mieux, sans rien pour le guider, sinon la ferme intention de grimper aussi haut qu'il le pouvait, avant que ses forces lâchent et que sa volonté cède. Il se traîna en avant, encore et toujours plus haut, zigzaguant de côté et d'autre afin d'adoucir la pente, manquant souvent de tomber la tête la première, et enfin rampant comme un escargot sous une trop lourde charge. Quand sa volonté ne put l'amener plus loin et qu'il sentit ses jambes se dérober sous lui, il s'arrêta et déposa doucement son maître à terre. Frodo ouvrit les yeux et inspira profondément. La respiration était plus aisée au-dessus des vapeurs qui flottaient et tourbillonnaient en contrebas.
« Merci, Sam, » murmura-t-il d'une voix cassée. « Est-ce encore loin d'où on est ?»«
J'en sais rien, » dit Sam, « parce que j'ignore où on va. »
Il regarda en arrière, il regarda en haut, et il fut stupéfait de voir jusqu'où sa dernière poussée l'avait amené. La forme solitaire et menaçante de la montagne avait paru plus haute qu'elle ne l'était en réalité. Sam constatait à présent qu'il était moins élevé que les hauts cols de l'Eiffel Doath que Frodo et lui avaient dû franchir. La masse confuse et éboulée des épaulements de son large socle se dressait à environ 3000 pieds au-dessus de la plaine, et de là, sur une hauteur moitié moindre encore, pointait son haut cône central tel un vaste four ou une épaisse cheminée surmontée d'un cratère échancré. Mais déjà, Sam avait escaladé plus de la moitié de la base, et la plaine du Golgoroth paraissait sombre sous lui, drapée d'ombre et de fumée. Et il eût crié en regardant en haut si sa gorge desséchée le lui avait permis. Car parmi les bosses et les saillies mouvementées au-dessus de lui, il voyait nettement un sentier ou une route. Telle une ceinture montant de l'ouest, elle venait, dessinait une ligne serpentine sur le flanc de la montagne et trouvait le bas du cône sur sa face est avant de disparaître de l'autre côté. Sam ne pouvait voir son tracé inférieur immédiatement au-dessus de lui, car une pente abrupte s'élevait à ses pieds. Mais il se disait que s'il parvenait seulement à grimper un peu plus haut, Frodo et lui atteindraient ce chemin. Une lueur d'espoir lui revint. Il pouvait encore conquérir la montagne.
« Ma foi, il aurait pu être mis là par exprès !» pensa-t-il. « S'il n'avait pas été là, j'aurais dû m'avouer vaincu en fin de compte. »
Le chemin n'avait pas été conçu exprès pour Sam. Lui-même ne le savait pas, mais il contemplait la route de Sauron menant de Barad-dûr au Samas-Naur, les chambres du feu. De l'immense porte sur la face ouest de la tour sombre, elle franchissait un profond abîme enjambé par un grand pont de fer et, passant alors dans la plaine, elle parcourait une lieue entre deux gouffres fumants et rejoignait ainsi une longue chaussée en pente qui l'amenait sur le flanc est de la montagne. De là, tournant et saignant toute sa vaste circonférence du sud au nord, elle parvenait enfin, sur les hauteurs du cône, mais encore loin du sommet fumant, à une ouverture sombre qui regardait à l'est, droit vers la fenêtre de l'œil de la forteresse de Sauron dans son manteau d'ombre. Souvent obstruée ou détruite par le tumulte des fourneaux de la montagne, cette route était continuellement réparée et à nouveau dégagée par le labeur d'innombrables orques.